VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Crise au Burundi, intensification des pressions internationales sur le président burundais Pierre Nkurunziza pour qu'il accepte de négocier avec l'opposition la semaine prochaine en Ouganda et qu'il approuve aussi le déploiement d'une mission de paix de l'Union africaine dans son pays. Selon l'AFP, le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, a annoncé aujourd'hui que le dialogue politique inter-burundais devrait reprendre le 28 décembre à Entebbe, à une trentaine de kilomètres de Kampala. Les discussions auront lieu sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté est-africaine. Y sont conviés 14 groupes burundais, dont le parti au pouvoir, les formations d'opposition et des organisations de la société civile, a souligné Crispus Kiyonga, sans pouvoir préciser si le président Nkurunziza sera présent à la réunion. La CNARED, coalition de tous les groupes qui rejettent le troisième mandat de M. Nkurunziza, confirme aujourd'hui avoir été invité au dialogue. Pas de réaction de Bujumbura jusqu'à présent. Le gouvernement burundais refuse de discuter avec la CNARED en l'accusant d'être impliqué dans la tentative de coup d'état militaire des 13 et 14 mai derniers et de soutenir les actes de violence au Burundi. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé à Brazzaville son intention d'avancer au premier trimestre 2016 élection présidentielle. Un mois et demi après avoir promulgué une nouvelle constitution, l'autorisant à briguer un troisième mandat. Au terme de cette constitution, la prochaine présidentielle doit avoir lieu en juillet. Mais M. Sassou Nguesso a justifié sa volonté d'anticiper le scrutin par la nécessité de mettre en œuvre ce qu'il a appelé la nouvelle dynamique institutionnelle. Au micro de Jean-Roger Bion, Jean-Marie Mpouele, coordonnateur de la plateforme politique et citoyenne Sauvons le Congo, dénonce un passage en force du régime de Sassou Nguesso.
C'est le parachèvement du coup d'État que nous dénoncions depuis bientôt 2 ans. Nous savions que le président de la République avait l'intention de se maintenir au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec un référendum contestable, avec des élections qu'il ramène, en tout cas, par sa propre volonté, parce que même la constitution actuelle, celle qu'il a promulguée, que nous ne reconnaissons pas, stipule clairement, en son article 244, que les institutions restent en place jusqu'à échéance de mandat. Or, du 1er janvier 2016 à mars 2016, nous ne sommes pas à la fin de son deuxième mandat. À la limite, c'est du gangstérisme d'État auquel nous sommes en train d'assister. Mais ceci dit, je pense que tout le monde gagnerait en inscrivant la vie politique dans une logique de dialogue permanent, mais de dialogue sincère qui pourrait déboucher sur des compromis, mais pas des compromissions, mais des compromis qui pourraient permettre au pays d'être suffisamment apaisé.
Jean-Marie Mpouele, coordonnateur de la plateforme politique et citoyenne Sauvons le Congo. En RCA, dissension ouverte au sein d'une des factions de l'ex-rébellion centrafricaine de la Séléka à propos de l'attitude à adopter face aux élections présidentielles et législatives dont le premier tour est prévu dimanche. Anne Albertson.
Le général Noureddine Adam, ex-numéro 2 de la Séléka et désormais dirigeant d'un groupe dénommé Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, s'est dit mardi, au nom du FPRC, décidé à adhérer à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire centrafricain. Jusqu'à présent, Noureddine Adam se disait opposé au processus électoral en cours et avait perturbé la tenue d'un référendum constitutionnel le 13 décembre dans les zones tenues par ses combattants dans le nord-est du pays. Il avait repris la thèse d'une possible partition de cette région, menace régulièrement agitée par une partie de la Séléka depuis qu'elle a été chassée du pouvoir à Bangui par une intervention internationale début 2014. Ce communiqué a été publié après une rencontre à N'Djamena avec un émissaire de l'Organisation de la coopération islamique, a-t-on indiqué de sources officielles tchadiennes. De son côté, la coordination politique du FPRC Coalition Séléka a dénié à Noureddine Adam tout droit de parler en son nom dans un communiqué parvenu mercredi matin à l'AFP à Libreville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dossier Centrafrique toujours, mais en Afrique de l'Ouest cette fois. Les Centrafricains vivant à Lomé au Togo veulent prendre leur place dans le processus électoral dans leur pays. La campagne électorale centrafricaine bat donc son plein dans la capitale togolaise. Hier, la branche togolaise de la jeunesse du mouvement de libération du peuple centrafricain a organisé un meeting pour promouvoir son candidat Martin Zigele. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ils seront environ 300 centrafricains résidant au Togo à aller voter le dimanche 27 décembre prochain au consulat de la Centrafrique à Lomé. C'est une première pour la diaspora centrafricaine au Togo. Ce droit de vote est perçu par ces citoyens centrafricains non seulement comme un signe de considération, mais également comme un pas vers la réconciliation. Boris Laobaï est le président de la branche togolaise de la jeunesse du mouvement de libération du peuple centrafricain.
Cette première fois pour nous représente beaucoup. La réconciliation ne se fait pas seulement qu'au niveau de ceux qui sont au pays. Il faudra retrouver tous les autres fils et filles du pays à l'intérieur, la diaspora, les rassembler. Et cette élection nous permet de nous rassembler. Donc, pour nous, la réconciliation viendra. La réconciliation y est déjà. Si nous, de la diaspora, nous sommes déjà réconciliés, nous sommes appelés, nous, à reconstruire le pays.
Pour reconstruire ce pays ravagé par des coups d'État et rébellions à répétition, la guerre contre l'impunité doit sonner un nouveau départ, estime Priska Kereping.
Ce que j'attends de notre futur président, il faut qu'il prenne conscience de ce que le peuple centrafricain a subi. Le problème de l'impunité qui règne dans le pays, il faut que ça cesse. C'est le moment, il faut que ça cesse. Et j'implore le président qui sera élu de mettre en place ce programme pour que l'impunité change. Parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois, notre pays tombe toujours dans les rébellions. Et c'est ce qui persiste.
Pour Boris Guissima, la première étape serait de redorer le blason des forces armées centrafricaines.
J'attends beaucoup de ce futur président. Et dans un premier temps, c'est le réarmement des forces armées centrafricaines. Ça veut dire les FACA. La République centrafricaine a 16 préfectures. Chaque préfecture devait avoir son état-major et essayer de contrôler toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Et dans ce sens, nos frères musulmans ne vont pas se plaindre depuis un délai pour dire que non, le pouvoir les a abandonnés, non, que le pays se trouve au niveau du capital.
Avec une population composée à plus de 60% de jeunes, le futur président centrafricain ne peut gouverner sans la jeunesse, conseille Romero Chrislin Angoa.
Le nouveau président a vraiment un grand travail à faire. Il faut qu'on occupe la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a été utilisée comme instrument de violence pour détruire le pays. Il faut que cette jeunesse-là soit bien gérée. Créer des infrastructures pour la jeunesse, créer des centres culturels pour la jeunesse. Parce que si la jeunesse est occupée, elle n'aura pas le temps d'aller détruire, elle n'aura pas le temps de faire la violence.
Pour remettre la Centrafrique sur les rails, ce centrafricain propose que l'agriculture ne soit plus ignorée au profit des richesses du sous-sol.
La République centrafricaine, on a notre terre qui est très fertile. Et la politique actuellement essaie de bannir notre sol et regarder dans notre sous-sol. Et c'est ce qui amène souvent des problèmes dans ce pays. Si M. Patassé était chassé du pouvoir, c'est à cause de notre sous-sol. M. Bozizé était venu au pouvoir, il était chassé encore, amené par les rébellions Séléka. C'était à cause de notre sous-sol. Mais moi, la vision que j'ai, c'est essayer de développer le sol qu'on a pour travailler le sol. Si je parle de travailler le sol, je parle de l'agriculture.
Ils sont tous unanimes à vouloir une nouvelle Centrafrique, caractérisé par la paix, la réconciliation et la relance de l'économie pour un mieux-être des citoyens centrafricains. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Mali est officiellement sous état d'urgence jusqu'à la fin de l'année. C'est la deuxième fois que cette mesure est prise. La menace djihadiste est revenue au premier plan, avec en particulier le 20 novembre l'attaque de l'hôtel Radisson Blue de Bamako qui a fait 20 morts, dont 14 clients étrangers, en plus des deux assaillants, selon le bilan officiel. Par contre, au Burkina Faso, le gouvernement a suspendu aujourd'hui pour 72 heures le couvre-feu en vigueur depuis le coup d'État manqué de septembre. Le couvre-feu est temporairement levé en raison des fêtes de Mouloud et de Noël. Ce couvre-feu sera à nouveau en vigueur le 26 décembre 2015, précise le communiqué du gouvernement. Et toujours au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire du nouveau président du parti du nouveau président élu Roch Marc Christian Kabore aux législatives du 29 novembre dernier. Le MPP a remporté 55 des 127 sièges de l'Assemblée nationale. Et pour terminer, au Nigeria, le leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu, de nouveau inculpé par un tribunal nigérian, alors qu'une autre cour avait ordonné sa libération la semaine dernière. Il est détenu par les services secrets depuis octobre. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.